1, 2, 3.
Peux-tu me faire une voix
plus claire? Good morning, Vietnam!
Are you drinking, bro?
Tonight we present a very warm little story called Kill With Time.
On a un peu dans ce studio, on laisse voir, on lui met un casque, il parle dans le micro.
Suffit que tu fermes ta gueule.
Bonjour à tous, vous êtes sur PFM 99.9 en compagnie des Décadrés avec Benjamin, Antoine et moi-même Ange.
C'est cool, ça va arriver les voisins.
Bonjour à tous, vous êtes sur PFM, comme vous l'avez entendu, avec les Décadrés. Bonjour Antoine, comment ça va?
Bonjour Ange, bah ça j'ai la voix un peu cassée, mais ça va et toi?
Ça va, c'est un peu difficile le matin en étant malade, mais bon, on va y arriver.
Bah oui, ça va aller.
Alors vous l'avez sûrement entendu, je n'ai pas dit bonjour Benjamin. Eh oui, Benjamin n'est pas à nos côtés.
Mais où est Benjamin?
Bah sur une petite feuille de papier que j'ai juste devant moi. Il a prévu le coup de ne pas être là, donc du coup en fait il nous a écrit ces choses.
C'est bien pratique.
Donc s'il avait été là et qu'on lui avait posé la question « Bonjour à toi Benjamin, comment ça va ?», il aurait répondu « Bien bien, mais aujourd'hui je serai là sans être là. Ne m'en voulez pas, c'est la vie, vous n'aurez pas toujours ce que vous voulez. Mais enfin, je ne suis ni l'exilé Obi-Wan Kenobi, ni parti en guerre pour une cause ou une autre. Je ne suis pas là. Mais tel le héros de Code Quantum, je suis à la fois présent, dans et absent de cette réalité radiophonique. Bref, comment vas-tu Antoine et Ange? Nous allons bien, on a déjà répondu à cette question.
Nous allons bien, exactement. Et la moitié des gens ont compris la référence à Code Quantum.
Tout à fait. Et donc, comme à notre habitude, nous allons passer directement aux news de Benjamin, aujourd'hui, lit par moi, Ange. Alors, le Festival de Cannes vient d'annoncer les films sélectionnés en compétition officielle et hors compétition, ainsi que les courts-métrages. Nicolas Winding Refn, réalisateur de Drive, ouais, c'est un peu compliqué à dire. Donc réalisateur de Drive et Only God Forgives, présentera en compétition officielle son prochain projet mystérieux, The Neon Demon. De même pour Pedro Almodovar et sa Julieta, Paul Verhoeven et son thriller Elle, ou encore Loving. Le nouveau film du prodige Jeff Nichols, comptant la bataille d'un couple composé d'un homme blanc et d'une femme de couleur dans l'Amérique ségrégationniste de 1958. Enfin, la bonne nouvelle de cette sélection du festival, Malout, le film de Bruno Dumont dont nous avons parlé la semaine dernière, sera en compétition au festival.
D'ailleurs, on a diffusé un teaser pendant l'émission.
Oui, tout à fait. Après avoir interprété Batman dans Batman v Superman, Ben Affleck compte reprendre la cape, mais cette fois-ci dans un métrage dédié au personnage. Particularité du film, Ben le réalisera. Il a été aussi annoncé que le cinéaste venait de terminer le script du film. Si la date de sortie reste incertaine, son prochain film, Live by Night, qui suit un jeune homme se rebellant contre son père policier et qui deviendra un redoutable criminel, le tout pendant la prohibition à Boston. Aussi, nous le retrouverons en tant qu'acteur dans le prochain film de Gavin O'Connor, réalisateur de Warrior, qui compte la péripétie policière d'un expert comptable. Sortie programmée le 26 octobre 2016.
Voilà, les rageux peuvent partir parce que nous on aime beaucoup Ben Affleck.
Attends, j'ai pas encore vu le Batman moi.
Ouais, moi je l'ai vu.
J'attends avec impatience. Les Contes de la Crypte, la formidable série culte des années 90, fera son retour à la télévision sous la houlette de Monsieur Night Shyamalan, à qui l'on doit le meilleur Sixième Sens, signe comme le pire After Earth, Avatar, le dernier maître de l'air. Affaire à suivre et qui devrait nous arriver dans l'année 2017. Et alors que Star Wars épisode 7, Le Réveil de la Force, vient de sortir en DVD, Blu-ray et VOD, la trilogie originale devrait revenir en salle dans leur version d'origine non retouchée. Mais alors aura-t-on des copies d'exploitation d'époque ou des copies nettoyées et alors remasterisées? Suspense. Et voilà. C'est pas mal ces news hein, qui nous est écrite.
Mais oui, en plus ça rentre pile poil dans le timing du jingle, moi je dis...
Non mais ça c'est parce que c'est le talent de moi-même qui les ai dit, tu vois.
Bien sûr, évidemment. Évidemment. Qu'est-ce qu'on ferait sans toi?
Ah, je sais. Mais bon, si on parlait maintenant de l'oncle Walt avec Antoine.
Ah bah avec plaisir, écoute, j'apprécie cette invitation. Alors, je vais vous parler d'un film que j'ai vu il y a très peu de temps, qui s'appelle « Dans l'ombre de Marie, la promesse de Walt Disney ». Ou les dessous de Mary Poppins, comme j'aime l'appeler. Bon, je plaisante, aucune allusion avec la lingerie, attention. Ouais, alors, sorti en 2013, L'Ombre de Marie est un film biographique qui a été réalisé par John Lee Hancock, que je ne connaissais pas avant et que je ne connais toujours pas, mais dont je vais bientôt m'enseigner sur ses films, et scénarisé par Kelly Marcel et Sue Smith. Alors, le film nous présente donc deux personnages. Walt Disney, interprété par Tom Hanks, dont nous avons déjà tous entendu parler, n'est-ce pas, j'ai appelé Benjamin, n'est-ce pas, mon cher ange ?
Oui, je suis un peu les deux aujourd'hui. Un peu.
Et ensuite, deuxième personnage, Pamela L. Travers, interprétée par Emma Thompson, qui n'est autre que l'auteur de Mary Poppins. Alors, concernant le film, celui-ci nous plonge dans les années 60, où on l'apprend que depuis plus de 20 ans, Walt Disney fait des pieds et des mains à la romancière Pamela Travers afin d'obtenir les droits d'exploitation cinématographique de son célèbre roman Mary Poppins. Alors, petit rappel, Mary Poppins qui a été réalisé par Robert Stevenson, produit par les studios Disney, et qui a été un succès mondial et qui encore aujourd'hui ravit les petits comme les grands. Alors, seul hic dans cette histoire, dans l'ombre de Mary, c'est que Pam... Oui, parce que Walt Disney dans le film l'appelle Pam, ce qui crée des... Oui, parce qu'en fait, Walt Disney dans le film appelle tous ses employés ou ses amis par leur nom avec un diminutif.
Ah, d'accord.
Et Pamela Travers n'aime pas beaucoup ça. Pam semble... Alors, dans le film, Pam semble bien décidée à faire en sorte que... Enfin, faire en sorte que d'échouer toute négociation. Et elle semble même prête à ce que cette promesse de Walt Disney faite à ses filles afin d'adapter le roman en film, ce projet dont la genèse date de plus de 20 ans, soit définitivement enterré. Alors, elle finira tout de même par se rendre en Californie, mais sera sans cesse en train de refuser toutes les idées proposées par l'équipe artistique. D'ailleurs, Pamela fera même une espèce de liste des choses qu'elle ne souhaite pas voir dans le film. Alors, pour commencer, elle ne veut pas de comédie musicale. Elle ne veut pas qu'il y ait d'animation, parce qu'elle semble détester les dessins animés. Ouais, c'est... Alors qu'il y a bien de l'animation dans Mary Poppins. Et, pas le plus drôle, elle refuse également la couleur du rouge. Elle refuse la présence de la couleur rouge. Ce qui est un peu embêtant quand on sait que Mary Poppins est anglaise. Qu'en Angleterre, il y a les cabines téléphoniques qui sont rouges, il y a les bus qui sont rouges et les gardes aussi qui sont rouges. Et même de toute façon, le rouge, c'est pas une couleur dont on se débarrasse facilement. Enfin bref. Alors, le film nous permet de découvrir donc deux personnages complètement différents et qui semblent avoir rien en commun, qui pourraient permettre une quelconque entente, mais donne aussi l'occasion d'en apprendre un peu plus sur les caractères de Disney ou encore de Pamela Travers. Alors, ce qui est amusant, c'est que nous avons donc deux personnages différents, comme je l'ai déjà dit. L'un, bon vivant, insouciant, incarné par Disney, et pour Pam Travers, un personnage vraiment têtu, amer, mais chez qui on ressent tout de même une certaine fragilité due à une histoire personnelle peut-être trop difficile, mais qui a laissé de grosses cicatrices, et qui permettrait aussi d'expliquer les raisons de son caractère parfois froid, mais qui au fur et à mesure du film nous permet d'entrevoir en Pamela Travers une personne pleine de compassion et de bonté en fait finalement. C'est une évolution du personnage qui se fait au fur et à mesure, et ce qui fait la force du film au-delà de la sublime réalisation et du scénario qui a été finement travaillé, c'est l'évolution du personnage de Pam, enfin de Pamela Travers pardon. Une évolution qui ramène le personnage de Travers vers ses souvenirs d'enfance, avec l'intervention de flashbacks qui au début surprennent, parce qu'on a du mal à se repérer, à trouver la temporalité dans le film, mais qui surgissent aussi dans l'esprit du personnage et sur nos écrans. Et à chaque fois que celle-ci commence à franchir un palier dans sa rédemption, enfin j'en dis pas plus au niveau de rédemption, mais à chaque fois qu'elle franchit un palier dans sa rédemption, un flashback apparaît. Alors des souvenirs qui nous montrent la famille de l'auteur de Mary Poppins, c'est plus particulièrement par exemple son papa, qui est interprété par Colin Farrell, qui est dans un rôle magistral et qui semble avoir eu un rôle important à jouer dans l'évolution du personnage de la créatrice de Mary Poppins. Sans conteste, du point de vue du scénario et de la réalisation et de la performance des acteurs, L'ombre de Mary, la promesse de Walt Disney, ça nous offre un biopic plein d'humanité, d'humour, mais ça propose également un voyage nostalgique, parfois mélancolique, sur les souvenirs qui nous construisent et peuvent aussi nous mettre à mal. Alors de plus, il est de bon augure d'enchaîner le film avec Mary Poppins, comme vous imaginez, afin de vous offrir une soirée qui sera riche en diverses émotions. Et parce que des rires aux larmes, il n'y a qu'à pas, n'est-ce pas, Ange ?
Tout à fait, tout à fait.
Et sur ce, je vous laisse sur le petit morceau, l'un de mes morceaux préférés présents dans Mary Poppins, j'ai pas pu m'en empêcher. On écoute ça tout de suite.
Règle, dans chaque travail, il y a un élément au fond qui fait que l'on s'adapte une chose qu'on aime. Et chaque tâche peut devenir, si on l'humeurait plaisir, tous les soupirs ne valent pas mieux qu'un sourire. C'est le morceau de sucre qui aide la médina couler, la médina couler, médina couler. Juste un morceau de sucre qui aide la médina couler, ça vous rend la vie plus belle. « oiseau faisant un nid, douillet naguère le temps de se reposer. Il va cueillir des brins de laine et bois. Bien pris par ses occupations, il siffle l'air gai d'une chanson, ce qui rend surtout travail beaucoup moins long. Sucre qui aide la métina à couler, la métina à couler, métina à couler. Juste un morceau de sucre qui aide la métina à couler, ça vous rend la vie plus belle.
Eh ben dis donc, ben moi j'ai hâte de voir ce film en fait, parce
et,
que
et bah, vraiment, pas mal. Vraiment je le conseille, que ce soit pour les petits comme les grands, c'est un très beau film, bon, qui peut parfois être dur, mine de rien, et en plus l'interprétation des rôles par Tom Hanks, Colin Farrell et Matt Hobson est juste grandiose, et il y a d'autres acteurs qui portent le film, enfin le film se base beaucoup sur le jeu des acteurs et sur l'humanité qui dégage, que dégagent les personnages, et c'est vraiment un très beau film.
Et puis c'est surtout, moi c'est surtout de voir Pam se faire enfler, parce qu'apparemment tout ce qu'elle ne voulait pas c'est au final dans son film.
Oui bah après elle se fait enfler mais pas vraiment
comme ça, c'est ça, enfler ou avoir un retournement de cerveau,
mais après comme vous en doutez le personnage évolue, ce qui fait qu'elle se fait pas vraiment enfler, c'est elle qui revoit ses ambitions autrement, mais justement il y a des choses marrantes justement parce que quand elle va voir le film en avant-première elle se met à pleurer devant le film et Walt Disney lui fait mais ça va aller Pam, ça va aller, et elle le regarde et elle lui fait non, elle dit c'est pas ça, c'est juste que je déteste les dessins animés. Du coup, voilà.
Une bonne touche d'humour.
Voilà, c'est ça.
D'accord, d'accord. Et bien maintenant, on va passer à Ben. Bonjour Ben. Alors, à quiconque me lit, donc je suis Ben. C'est peut-être la même voix que Ange, mais en fait, non, c'est Ben. Donc toi, mon cher collègue décadré, répondant soit au doux nom de Ange, c'est moi, soit celui transpirant le courage d'Antoine.
Ah ça c'est moi ça.
Moi j'ai juste le droit au doux nom, hein. Ouais, toi, c'est le courage et tout.
Ouais, mais toi t'as la douceur dans la voix et dans le nom, moi j'ai le courage et la pugnacité.
Bon arrêtons là les conneries mondaines, un temps soit peu. A, B, C, D. Je ne fais que lire ce qu'il m'a écrit. Hein. Bon arrêtons les imbécilités du jour. Cette semaine pour notre jolie émission, je suis allé interviewer certains des gestionnaires du Kinociné, cinéma classé art et essai de Villeneuve-d'Ascq, précisément situé sur le campus de Lille 3. Le kino rencontre certaines épreuves en ce moment, notamment liées aux transformations du cinéma. Précisément l'évolution de la projection pellicule au numérique. Maintenant, place à l'interview.
Je suis avec Jonas Pamard, Quentin Conrad, du Kinociné de Villeneuve-d'Ascq. Est-ce que vous pouvez nous introduire, donc nous présenter l'histoire du Kinociné rapidement ?
Alors présenter rapidement 40 ans d'activité, c'est pas si évident, mais bon bah déjà voilà, ça permet de dire que ça fait maintenant 41 ans que l'association existe, qu'elle est toujours présente dans l'université Lille 3, même si le nom a changé, mais l'idée là c'est que c'est une association qui défend le cinéma.
Voilà, donc ça c'est la force du kino, c'est aussi une initiation à l'image.
Oui, c'est pas... On n'est pas obtus sur un certain type de cinéma, quoi. On veut proposer vraiment tout ce qu'on aime, que ce soit des films engagés, militants, qui soient juste beaux esthétiquement, qui soient dans l'histoire du cinéma important.
Je pense que pour un étudiant, c'est ça qui compte. Et pour les gens qui habitent autour, c'est d'avoir un moyen d'accès au monde par des films différents, des expériences, des sensibilités différentes, des sensations différentes autour de sujets qui sont en eux-mêmes très différents. Il y a toujours cette idée-là d'avoir un lieu où des bénévoles vont faire des projections, se former au métier du cinéma, oui, et en passant des films qui sont quand même assez ouverts dans des registres différents et qui permettent aussi aux étudiants d'ici de se faire une culture cinématographique à un prix plus que faible quand on compare avec les autres cinémas. Donc voilà à peu près ce que fait le kino depuis plus de 40 ans maintenant.
On sait que le changement de la pellicule au numérique a causé de nombreux problèmes, notamment aux exploitants. Et vous avez connu des problèmes avec ce bouleversement.
Oui, on en a connu, on en connaît toujours. Je veux dire, c'est, on a dû, comme tout le monde, changer notre format de projection, donc passer des 35 mm au format numérique. Pour ça, on a dû acheter un projecteur numérique, tout un système de serveurs et d'ordinateurs pour pouvoir continuer à projeter du cinéma d'actualité, parce que tout le secteur cinématographique s'est mis à ce format-là, pour des raisons de coût de production. Mais du coup, c'est des coûts très très lourds à porter pour un petit cinéma comme le nôtre de changer de format. Donc c'est un projecteur numérique plus toute l'installation, ça va chercher dans les 100 000 euros.
Pourtant, vous avez eu des aides du CNC et vous en avez toujours chaque année, il me semble. Est-ce qu'elles sont fortes?
On a une subvention effectivement pour passer au numérique. On a eu une aide à l'équipement qui nous a permis en partie de faire ce passage, cette transition de la pellicule au numérique. Et tous les ans, on reçoit effectivement une subvention du CNC, mais qui n'est pas qui nous sert pour le fonctionnement annuel du cinéma, et pas pour continuer le remboursement de passage au numérique. C'est-à-dire qu'on a eu des sous pour faire ça, mais on n'a pas eu suffisamment pour clôturer ce budget-là.
Oui, ça couvrait pas la totalité du prêt pour voilà. Ça. Quoi. C'était une sacrée aide, bien sûr, mais c'est pas non plus. Ça c'était pas la totalité quoi.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer alors votre situation actuelle? Donc vous avez fait une demande de fonds par exemple.
Oui, là précisément c'est l'idée de clôturer. Alors il y a plusieurs choses, mais il y aura déjà cette idée de clôturer ce passage au numérique, cette transition. D'un point de vue financier, ce serait bien effectivement de terminer ce dossier là pour pouvoir se concentrer sur des choses qui sont celles qu'on voudrait mettre en place dans les prochains temps, sans pouvoir fixer la date évidemment en fonction de cet appel au financement participatif. Il y a plusieurs choses qu'il faut faire. Il faut changer la caisse, ça paraît un peu simple à dire comme ça, mais l'idée c'est de pouvoir mettre en place beaucoup plus de choses par internet, des applications, moderniser ce que tout le monde peut faire sur pas mal de cinéma.
Pour répondre à la demande qui est faite actuellement de l'évolution globale de tous les cinémas, justement vers internet, vers une proposition de cartes d'abonnement, tout ça.
Est-ce que votre localisation dans l'île 3 ne vous handicaperait pas?
Ben, oui et non. Il y a forcément des étudiants qui, à la sortie des cours, vont rentrer sur l'île, et ne reviendront pas à Villeneuve-d'Ascq pour regarder leur film du soir. Ça paraît évident. Avec la carte GC illimitée, on sait bien que de ce point de vue-là, ça n'aide pas. Mais d'un autre côté, le fait d'être à l'île 3 fait qu'on a une visibilité autre que non pas forcément les cinémas de centre-ville, c'est que les professeurs, un certain nombre de personnes vont venir pour qu'on organise des choses ensemble, et ça c'est vrai qu'on aime beaucoup faire ça. Et bon, pour moi c'est important de faire ce genre de choses, parce que ça se fait pas ailleurs, que ça permet des discussions avec les spectateurs et lui. Donc quelque part, on est dans une université, on s'en sert, même si c'est vrai que ça nous aide pas sur tous les points, c'est certain.
Comme solution, vous avez lancé une campagne de fonds et fait appel aux cinéastes qui sont passés chez vous. Mm-hmm. Vous avez même envoyé des messages aux distributeurs, il me semble. Mm-hmm. Est-ce que ça fonctionne ou est-ce que vous avez du mal à fédérer autour de ce projet?
Donc ça réagit quand même. Il y a beaucoup de monde qui nous soutient, qui nous appelle en disant « Oui, moi, le kinociné, c'est toute ma vie, j'ai des très très bons souvenirs qui donnent, qui partagent et tout ça. » Quand les gens sont au courant, c'est... On a l'impression vraiment que le kinociné occupe toujours une place dans leur cœur, parce que c'est quand même aussi qu'on le rappelle 40 ans d'histoire, donc il y a forcément plein d'histoires liées à ce lieu. Et donc que ce soit...
Oui, non, mais les réalisateurs qui sont passés ici nous soutiennent tous à fond.
Dans vos solutions, est-ce que vous êtes du coup vous avez pensé à la carte GC illimitée, ça?
Ouais, oui. Justement, quand on parlait de la caisse tout à l'heure et je parlais justement des offres qui se font sur le marché, c'est aussi ça le but, quoi, c'est de pouvoir accepter la carte UGC au kino, qui n'a pas trop le choix, quoi. Tous les cinémas maintenant, même d'ARSC, s'y sont mis, donc et c'est un gros plus pour pas mal de salles. Pour nous, ça serait vraiment quelque chose de très bien, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants sur la fac qui ont la carte UGC, mais qui du coup... un peu le kino parce qu'ils ont déjà leur abonnement à payer chaque mois, ils vont pas repayer des sous en plus pour aller dans pour le kino ciné. Du coup, si la carte UGC était acceptée au kino, c'est sûr qu'ils auraient beaucoup moins de scrupules à venir ici et découvrir des films qu'ils ne verraient pas ailleurs.
Vous pourrez retrouver l'intégralité de l'interview qui a duré 26 minutes plus tard sur PFM, dans d'autres de ses émissions, ou possiblement ailleurs. Notre formateur, notre saint patron Bernard, nous donnera plus de renseignements à cet égard. Enfin, n'allez pas vous plaindre, vous avez déjà eu pas mal d'informations et de bonnes choses. Et en parlant de bonnes choses, sachez que vous pouvez soutenir le Kino Ciné sur Ulule, ou alors en les soutenant sur les réseaux sociaux à coup de partage, like, etc. Ou encore en rejoignant leur rang. Sachez que le Kino Ciné recrute et que vous pourrez recevoir des informations en gestion de caisse et projection numérique à pellicule. À la semaine prochaine. Bon, si les deux autres décadrés font un débat sur ce qui a été dit, laissez-les parler sagement, écoutez leur sagesse. Enfin, je vois même pourquoi je vous dis ça. Vous n'avez plus le choix. Aha ! Oh non, le clip qu'a pas sur pause.
Non, mais par contre, moi, ce que je voudrais revenir, c'est que le Kino, enfin, je trouve que c'est une salle importante. Enfin, mine de rien, moi, le Kino m'a fait découvrir. Ne serait-ce que le film French Connection de William Friedkin, dont j'ai parlé et qui a réalisé l'exorcisme. J'ai pu voir le film dans de très bonnes conditions dans la salle. C'est vraiment une équipe super. Il y a des collations avant chaque projection, pas très cher. Enfin, ça permet de faire vivre l'association. C'est énormément d'étudiants qui sont investis dans ce projet. J'adresse tout mon soutien au Kino et j'espère qu'ils sortiront la tête de l'eau. Et n'hésitez pas à faire des dons pour le Kino. N'hésitez pas à partager, à liker les pages. Ça leur fera, même juste liker les pages, c'est un soutien symbolique, mais je pense que c'est important et ils en ont besoin.
Tout à fait. Moi, pour ma part, en tout cas, je connaissais que de nom. Je n'y suis jamais allé. J'ai pas trop l'occasion d'aller sur l'île souvent. Mais c'est un projet important pour la région. C'est d'exploiter autant de films que personne, enfin que très peu de monde connaissent. C'est vachement intéressant pour l'univers du cinéma, quoi.
Mais après, oui, le format. Après, oui, c'est vrai que ce passage de la pellicule au format numérique, ça n'aide pas. Enfin, c'est comme si on demandait, enfin, de refaire une mise à jour de tout ce qu'on a pu avoir avant et reprendre limite tout à zéro. C'est
comme rouvrir un vieux PC sur Windows 7 et de faire toutes les mises à jour pour arriver à Windows 10.
Voilà, avec un Packard Bell avec un Packard Bell bien blanc des années 90, c'est dans le même principe.
Mais
enfin non, le Kino n'est pas un Packard Bell des années 90, bien entendu, pas du tout. C'est une très belle salle, c'est une troupe de gens qui s'activent farouchement pour leur association et pour la vie culturelle de l'île 3. Donc nous vous invitons à rejoindre leur page Facebook et à les soutenir, c'est très important.
Tout à fait.
Et on remercie Benjamin d'être allé sur place et on remercie l'équipe du Kino d'avoir répondu à cette interview. Ça, en espérant que les décadrés auront su amener quelques gens pour les aider, ce serait super.
Ouais.
Alors du coup Benjamin,
non, moi, c'est Ange.
À force d'interpréter son rôle, je suis complètement perdu. Ah. Mais du coup Ange, je suppose que toi aussi tu as une rubrique.
Oui.
À nous confier. Et dis-moi quelque chose, t'en as soufflé mot tout à l'heure, mais t'as envie de parler de suite.
Attention, Ghostbusters 2, Tekken 2 et 3, Le Roi Lion 3, Rock c'est Rookie 2, Indiana Jones 2, 3 et 4, Astérix et Obélix, Les Gremlins 2, Star Wars 5, 6, 1, 2, 3 et 7. Cela vous dit quelque chose, tous ces noms, hein. Surtout tous ces chiffres, ils sont effrayants, ils suscitent la curiosité, le dégoût, la surprise, l'envie. Vous avez bien compris, nous allons parler aujourd'hui des suites. Donc pourquoi sont-elles si bien ou si mal accueillies par le grand public ? Donc je ne vous donnerai pas mon propre avis, je ferai ici une généralité de tous les avis que j'ai pu entendre ou vus sur les réseaux sociaux. Ceci afin de définir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans une suite. Donc attention, deuxième précision, je parle bien de suite et non de crossover, de spin-off ou de préquel. Donc je commencerai par vous parler de l'histoire. Très peu de suites ont fonctionné sans une bonne histoire qui se situe au même niveau que celle du premier film, c'est-à-dire avec de la nouveauté dans un arc scénaristique similaire au premier. Il s'agit de ne pas perdre le public de vue, en effet. Une suite peut avoir des difficultés à être bien accueillie s'il y a trop de nouveautés. Imaginez la suite du Roi Lion sans jamais voir le Roi Lion, avec uniquement que des nouveaux personnages que l'on ne connaît pas, et un tout autre genre. Ce ne serait plus le Roi Lion. Et c'est en cela qu'il faut faire très attention au nom des films. Ainsi, pour exemple, X-Men Days of Future Past n'est pas une suite d'X-Men, même si l'histoire se déroule dans le futur. Mais là, je prends pour exemple un univers complexe, on en discutera peut-être plus tard. Donc on peut prendre pour exemple la saga Retour vers le futur, qui réussit parfaitement à mon goût. je précise bien à mon goût, cet exploit qui est de renouveler son histoire avec toujours de nouveaux personnages, de nouveaux décors, de nouvelles aventures, ou plutôt du renouvellement en gardant pourtant la même méthode de travail.
C'est pas qu'à ton goût, hein, c'est une très bonne trilogie.
Non mais c'est bien, il y en a qui n'ont pas apprécié le troisième,
c'est vrai.
Il n'y a pas eu un très bon accueil. Enfin, ce qui est très, très important du coup, puisqu'une suite ne respecte pas tout cela, fera certainement un flop. Si une suite change tout, ça sera pas forcément très bien pour son accueil auprès du grand public.
Tu veux dire si elle fait un reboot ?
Tout à fait.
D'accord.
Ça sera du coup un reboot. C'est inutile, par exemple, de faire une suite si c'est pour faire une copie du premier film.
D'accord, mais d'ailleurs pour nos auditeurs, sachez qu'un reboot, c'est reprendre le concept, enfin reprendre un film et redémarrer l'histoire réseau. Par exemple, exemple concret, hein, je me permets, les Spider-Man de Sam Raimi avec Tobey Maguire, enfin les deux premiers avec Bouffon Vert, tout ça, et les Amazing Spider-Man sont un reboot, parce qu'ils reprennent la franchise à zéro, on va dire, avec une nouvelle histoire, des nouveaux acteurs, nouvelles réalisations, nouveaux moyens.
C'est pour ça qu'il a reçu un mauvais accueil. Des gens ont cru que c'était une suite.
Oui, mais non.
Mais après, c'est une autre.
le Amazing Spider-Man n'est vraiment pas tip-top. L'exemple le plus concret, c'est le 2, Amazing Spider-Man 2, qui est un film bâtard avec qui mélange plein de genres avec des plans. C'est un film dans lequel on a énormément de mal à se repérer, même si les musiques sont superbes.
Mais après, l'univers Marvel et DC, je parle des deux univers, hein, Marvel et DC, c'est vraiment très compliqué de savoir ce qui est suite ou pas, ce qui est reboot ou pas, parce qu'il y a tellement, c'est un univers tellement complexe que je pense qu'il faudrait qu'on va en reparler dans une autre émission.
Faudrait faire une émission spécialement Marvel et DC, c'est vrai que
pour en parler pour les suites, c'est un très grand univers et voilà. Enfin voilà. C'est aussi en cela qu'il est difficile de plaire pour une suite. Il faut trouver une subtile nouveauté permettant de faire un tout nouveau film, mais en reconnaissant l'identité et la patte du précédent. Et là vous me direz, oui, mais pour les sagas adaptées de romans. Eh bien c'est exactement la même chose, retournez voir ces films et vous verrez qu'il y a toujours un petit truc nouveau dans une patte bien définie pour la saga.
Sauf dans Twilight.
Je n'en parlerai pas. Mais tout cela reste minime en comparaison à une saga spécialement écrite pour le cinéma, et là je pense particulièrement à Kung Fu Panda. Le premier, j'ai adoré, le deuxième un peu moins, le troisième, les trois en fait suivent exactement le même arc scénaristique, on retrouve exactement la même chose.
Ils
se pètent la gueule au début et à la fin il y arrive en 5 secondes.
J'ai eu la même sensation, enfin j'ai pas vu le troisième, mais je me souviens pourquoi j'ai vu le deuxième, j'ai eu cette sensation de me dire que c'était le même schéma narratif et que...
Ce qu'il y a de nouveau, c'est un grand méchant, mais au final, on retrouve tout le temps la même chose. Parfois, c'est bien géré. Dans Retour vers le futur, c'est très bien géré, cette chose-là. Mais dans Kung Fu Panda, je sais que c'est un dessin animé pour enfants, mais enfin...
Mais après, le personnage de Beef aussi, Beef Tannen, dans Retour vers le futur, il évolue, mais il est très très drôle aussi à la base. Il est horrible, hein, mais c'est aussi un comic relief, quoi. À chaque fois qu'il vient, on sait qu'il va se passer un truc à la fin avec les scènes de fumier. Il y a toujours un truc qui fait que le personnage est tourné au ridicule.
Tout à fait.
Mais
le changement peut être d'ailleurs un mauvais point pour une suite si on change tout. Je pense en particulier le changement de réalisateur. Donc je pense en particulier aux Harry Potter qui ont perdu la fibre de Chris Columbus à partir du 4. Mmh. Ou encore Astérix et Obélix qui a eu deux premiers volets totalement différents et qui ont parfaitement marché, à mon goût. Mais les suivants ont eu du mal à relever le niveau d'humour d'Alain Chabat. Pour ma part, la plus grande déception me vient des dessins animés, qui perdent de leur teneur scénaristique, ce qui est dommage, même s'ils sont parfois essentiellement destinés aux enfants, il ne faut pas oublier de ne pas faire exactement pareil que le premier. Donc c'est ce que je disais pour Kung Fu Panda, même si l'on change quelques personnages. Et le Roi Lion 3 a réussi à éviter cela en nous montrant une nouvelle facette de l'histoire autour de Timon et Pumba pendant le premier film.
C'est vrai.
Enfin voilà, je voulais vous demander ce que vous en pensez les gars, mais bon, vu que Ben n'est pas là, je vais pas faire sa voix pour répondre à sa place.
Non, mais moi je pense qu'il suffit de regarder le nombre de films Barbie qu'il y a eu et ses suites, hein, pour comprendre qu'il y a vraiment une couille dans le potage, tu vois, enfin... Non mais plus sérieusement...
Tu m'as tué, excuse-moi.
Non mais j'ai quelqu'un à la maison qui aime beaucoup Barbie, du coup, enfin qui a déjà regardé les films.
Je te demanderai pas qui.
Je ne le dirai pas. Mais non, mais c'est vrai que cette histoire de suite, c'est toujours un peu compliqué. Après, il est très difficile aussi de concevoir une suite. C'est ce qu'il faut se dire quand on regarde un film. C'est très facile de critiquer un film, une suite par rapport au premier qui est sorti, mais la difficulté aussi, elle est là pour le réalisateur, elle est là pour le scénariste. Après... le mieux généralement, enfin, si on n'est pas sûr de soi, c'est de ne pas en faire. Mais
bah, ce qui est impressionnant, c'est que au final, le premier est toujours, soi-disant, le meilleur de la saga, mais c'est très difficile justement pour relever le niveau ou bien de rester dans la même patte des autres. Enfin voilà. C'est tout pour moi aujourd'hui.
Ok, très bien. Bah, merci Ange de nous avoir donné ton point de vue sur cette histoire de suite.
Mais de rien.
Et bah, j'espère que tu n'hésiteras pas à faire un papier sur un animé.
Ce serait un peu plus long, bien on verra.
Sur la trilogie Kung Fu Panda, pourquoi pas. Ce serait sympa, surtout que le premier est très sympa.
Et oui, tout à fait.
Bon, bah, sur ce, nous, on va vous laisser, nos chers amis décadrés, sur la musique de Kick-Ass 2, n'est-ce pas ? C'est toi qui l'as choisi.
Oui, une bonne suite, celle-là aussi, je trouve.
Exactement. Moi, je n'ai pas trop aimé, mais...
Oh, mais chacun
c'est personne. Voilà. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas.
Hein. Ben oui.
N'importe quoi.
Hey, c'est Benjamin, je vous dis au revoir.
Alors, on vous souhaite une très très bonne journée, mes amis, et on vous dit à la semaine prochaine.
À bientôt.